Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je remercie de m'inviter à ce colloque. Alors, François Feige, étant arrivé en France en 1938, comme exilé camouflé en correspondant, comme il a écrit, il est devenu journaliste et intellectuel français influent au sommet de sa carrière, conseiller des présidents Mitterrand et Chirac et officier de la Légion d'honneur. Il a commencé sa carrière à une époque en France, dans la deuxième moitié des années 1940 et dans les années 1950, où les intellectuels en France vivaient sous une pression idéologique permanente, dont les sources étaient l'attraction du communisme et l'influence du Parti communiste français. La situation des intellectuels émigrants du bloc soviétique était donc particulièrement défavorable. Malgré les conditions difficiles, comment pouvait Feige remporter des succès si spectaculaires? Je tente de répondre à cette question. Je définis d'abord ses champs d'activité, j'énumère ensuite très brièvement les résultats et les effets de ses travaux en France, puis j'évoque les graves difficultés des émigrants des pays du bloc soviétique, tout en montrant comment Feige pouvait les surmonter. Quelques mots sur les sources. Bon, j'ai utilisé les sources d'archives en Hongrie et en France. En Hongrie, je souhaiterais souligner l'importance de la collection Feige dans les sous-sols du château Károly à Fehérvárosgyurgyó. J'ai également fait des recherches sur lui aux archives historiques de sûreté d'État à Budapest. J'ai également utilisé les sources orales. J'ai interviewé des intellectuels d'origine hongroise en France, des intellectuels journalistes et universitaires français, des diplomates et d'anciens diplomates français et hongrois, ainsi que son fils Charles. Bon, bien sûr, j'ai utilisé la littérature qui est relativement abondante, surtout en ce qui concerne la circonstance où il a fait sa carrière en France. Bon, j'ai utilisé ses mémoires, j'ai utilisé le volume d'interview que vous connaissez sans doute à la fin, qui a été réalisé à la fin de sa vie. Et il y a des mélanges offerts à son honneur, bien sûr, ce qui était très profitable. En ce qui touche, comment on peut définir ces champs d'activité? Selon le dictionnaire des étrangers qui ont fait la France, qui a été édité par Pascal Horry, je cite, que ce soit sous sa plume de journaliste, d'historien ou essayiste, François Feige ne cessa de livrer un regard aiguisé sur l'histoire contemporaine des pays de l'Est. Et cet intellectuel, qui mourut presque centenaire, s'imposa comme un grand humaniste, héritier de l'universalisme européen des Lumières. Fin de citation. Quels étaient les résultats et les effets de l'activité de Feige? Ses travaux était important aussi bien quantitativement que qualitativement. Il a publié presque 50 livres et environ 10 000 articles. Son œuvre principale, l'histoire des démocraties populaires, la première édition 1952, a été traduite dans 17 langues et plusieurs fois rééditée. Ces effets sont perceptibles en particulier en deux domaines, concernant la vie intellectuelle et la politique étrangère française envers l'Europe centrale et orientale. D'abord, je souhaiterais montrer son influence dans la vie intellectuelle. Avec une attitude critique, il s'efforçait de présenter la réalité du communisme du bloc soviétique à l'intelligentsia française. Comme rédacteur et commentateur du monde communiste à AFP, ses écrits ont été largement diffusés par la presse française. Il était capable de considérer l'évolution du bloc soviétique dans son ensemble, tout en présentant les événements dans une perspective de la politique mondiale. Comme journaliste, à partir de 1945, il a publié de très nombreux articles dans les quotidiens et hebdomadaires français bien différents. Par exemple, dans le Populaire, l'Aube, le Franc-Tireur, Combat, mais aussi dans le Figaro, le Monde, Ouest-France, La Croix, etc. Il a étroitement coopéré avec les revues intellectuelles influentes, notamment avec Esprit, Argument, Contrepoint et Commentaires. Deux exemples, je ne voudrais citer que deux exemples notoires. Son article dans la revue Esprit sur le faux procès Roig en 1949 et ses publications en relation avec la révolution hongroise de 1956, notamment le numéro spécial des temps modernes de Sartre, coordonné par François Feythe. C'était novembre 1956, janvier 1957. En 1956, il n'a pas hésité à utiliser ses contacts personnels pour persuader certains intellectuels. Feythe voulait convaincre l'intelligentsia française, dont la majorité appartenait à la gauche nourrissant des illusions vis-à-vis de l'URSS et du communisme en général, et prouver que la révolution hongroise était une cause juste. Et comme expert de l'Europe centrale et orientale. Selon mes sources orales, à son époque, Feythe était l'expert le plus reconnu de la région en France. Elle lui attribue une autorité académique, intellectuelle et morale. Il avait un grand rayonnement. Il convient de souligner l'importance de ses ouvrages scientifiques, surtout le premier tome de l'histoire des démocraties populaires, publié en 1952. Ce livre de référence, par lequel Feythe a obtenu une réputation mondiale et qui est devenu bientôt manuel universitaire, présente la formation et l'évolution du bloc soviétique de 1945 jusqu'à 1952. Après la vie culturelle, jetons un coup d'œil ses effets sur la politique étrangère française. Il a étroitement collaboré avec le Quai d'Orsay, selon les sources. Les dépêches et les commentaires d'AFP ont été évidemment suivis au ministère des Affaires étrangères. Les sources orales concordent que les volumes de l'histoire des démocraties populaires étaient un point de départ pour les diplomates français en charge du bloc soviétique. Selon plusieurs témoins, Feythe était régulièrement consulté, surtout dans les années 70 et 80. Feythe était régulièrement consulté lors de la préparation des visites de haut niveau concernant la Hongrie. Et au sommet de sa carrière, il a donné des conseils aux présidents Mitterrand et Chirac. Mais, bien sûr, on sait qu'il avait, j'ai déjà mentionné, il avait des très graves difficultés. Surtout au début, après la Deuxième Guerre mondiale. La réalisation d'un si grand succès est d'autant plus appréciable qu'il devait comme émigrant du bloc soviétique, surmonté de très graves difficultés, surtout dans la deuxième moitié des années 40 et dans les années 50. Mais pourquoi la voix des témoins de la réalité des régimes communistes était si peu audible en France? La littérature accentue depuis longtemps la grande sympathie envers l'Union soviétique à cause de sa victoire sur l'Allemagne nazie. Cette gloire a revêtu sur le Parti communiste français qui s'est renforcé par le tribut du sang payé dans la résistance, comme on a écrit bien souvent. L'intériorisation du conflit idéologique de la guerre froide a grandement influé la réception en France des émigrants des pays de l'Europe centrale et orientale, ainsi que leur possibilité de témoigner. Antoine Marès, professeur à la Sorbonne Paris 1, a écrit à juste titre, je cite, « Dans l'atmosphère qui suit la libération, les émigrés qui ont fui les troupes soviétiques et les régimes des démocraties populaires étaient suspects au même titre que les collaborateurs. Globalement, dans une grande partie du monde intellectuel français, ils n'étaient pas considérés comme des victimes de l'histoire, mais plutôt comme des gêneurs qui troublaient un certain conformisme ambiant. Les exilés durent donc sans cesse se défendre de reproches souvent injustifiés, entretenus par les appareils de propagande de leurs États d'origine et le Parti communiste français. » Fin de citation. C'est pourquoi les intellectuels réfugiés du bloc soviétique avaient des marges de manœuvre très restreintes pour transmettre le savoir sur la région pour le public français après la guerre. Les mémoires de François Feiteux en donnent plusieurs illustrations. Les éléments communistes de l'émigration hongroise, par exemple, s'efforçaient d'empêcher son travail à la radio française ou à l'AFP. Et à propos de ses articles publiés sur le procès Roeck, il a écrit dans ses mémoires, je cite, « Une longue liste d'amis et de relations de gauche avait rompu avec nous à cause de ma prise de position. » Fin de citation. Comment pouvait Feiteux, comme intellectuel, maîtriser tous ces obstacles? Je mentionne ses qualités personnelles, ses relations, sa connaissance approfondie, ainsi que sa volonté y ont également contribué. D'abord, quelques mots sur ses qualités personnelles. Toutes les sources se réfèrent à son sens des contacts humains. Son ami de 50 ans, Pierre Quindet, a écrit, citation, « Je dois avouer que jamais de ma vie je n'ai connu quelqu'un d'autre aussi capable que lui de créer des liens personnels et de les garder en dépit des distances géographiques ou des interruptions temporelles. Cette faculté exceptionnelle de François avait pour socle un intérêt vif pour l'autre et une mémoire hors pair. » Fin de citation. Selon les témoignages, il avait une culture très large. Son intérêt et ses connaissances dépassaient de loin la sphère politique contemporaine. Et Feiteux avait un esprit d'analyse extraordinaire. En ce qui touche ses relations, Feiteux avait un réseau d'amitié très puissant et structuré. On peut le reconstruire par ses mémoires, d'une part en France, d'autre part en Europe centrale et orientale. En France, il connaissait personnellement nombre d'intellectuels célèbres et influents, comme Sartre, Camus, Maritain, Aron ou Edgar Morin. Il connaissait aussi Clara Malraux, la femme d'André Malraux, qui a beaucoup aidé pour élargir ses relations. Feiteux avait des acquaintances parmi les hommes clés de la presse, comme le directeur de l'AFP, Géraud-Henri Jouve, qui l'a placé à AFP en 1944, ou Albert Gazier, ministre de l'Information, qui l'a mis, lui a mis à nouveau en 1950, ou bien Emmanuel Mounier, fondateur de l'Esprit. Mais il connaissait également nombreux hommes politiques. Par exemple, à travers la femme Lucie Faure, Feiteux connaissait Edgar Faure, président du Conseil en 1955, qui l'a aidé pour obtenir la nationalité française. Mais il connaissait aussi des gens influents et importants en Europe centrale et orientale aussi. Et ses contacts lui ont assuré dans la presse française une possibilité exceptionnelle d'information et de consultation. Feiteux connaissait personnellement un grand nombre de cadres de la nomenclatura d'après 1945. Certains étaient ses amis, comme Laszlo Roig et sa femme, ou les dirigeants social-démocrates, comme Anna Kately. Selon ses mémoires, lors d'un déjeuner en juin 1947, Roig, alors ministre de l'Intérieur, a laissé entendre que le Parti communiste s'arrangeait pour distancer les socialistes. C'est une citation. Et donc, le PC s'arrangeait pour distancer les socialistes aux élections prochaines. Sur d'autres acteurs importants, il pouvait obtenir une impression personnelle. Par exemple, Imre Nagy ou Matyás Rákosi ou de Lukács de passage à Paris. Feiteux avait des relations cordiales avec les diplomates polonais et yougoslaves de Paris. Ces derniers ont grandement aidé par les informations confidentielles. La préparation de ces articles sur le procès Roig. Feiteux avait une compréhension très approfondie sur l'Europe centrale. Quand, en 1938, il devait quitter la Hongrie, âge de 29 ans, sa carrière littéraire et journalistique s'est déjà bien avancée. Il connaissait personnellement l'élite culturelle, surtout littéraire, du pays, par exemple, Lajos Hatvani ou Pál Ignótus, Attila, József, Gyula Illés, etc. Mais son attachement à la France et la langue française consolidait davantage sa position dans le pays. Il a maîtrisé le français d'un niveau bien élevé, par écrit aussi, ce qui était nécessaire pour acquérir de l'autorité parmi les intellectuels français, même s'il avait un accent de la Transdanubie, comme il a dit de temps en temps. Bon, d'après ses mémoires, la culture française lui était très chère, même avant son exil. Donc, François Feiteux, comme journaliste et intellectuel, spécialiste du monde communiste, était un médiateur particulièrement efficace de l'Europe centrale et orientale en France, par ses ouvrages historiques. Il a beaucoup œuvré pour y faire comprendre la réalité complexe de la région à travers ses publications, son enseignement universitaire et son travail d'expert. Il a participé dans une certaine mesure à l'élaboration de la politique étrangère française envers l'Europe centrale et orientale. Vu ses résultats spectaculaires, son insertion solide dans le tissu de la vie intellectuelle française et le respect qu'il a acquis dans sa seconde patrie, François Feiteux peut être considéré plutôt comme une exception et non pas un émigrant typique. Merci.